Bienvenue sur Radio Craponne pour l'émission Un livre par semaine en compagnie de Pascal Blasi. Pascal qui aujourd'hui va nous parler du livre de Sylvie Hiver, Mousseline la sérieuse. Bonjour Pascal.
Bonjour, et bien nous sommes à Venise en 1850 et la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, au crépuscule de sa vie, raconte son histoire et elle nous parle de sa naissance. Je suis née sous les meilleurs auspices le 19 décembre 1778, dans les splendeurs de Versailles, le plus beau palais d'Europe, devant le flot de la cour. Les douleurs de ma mère, d'abord supportables, se muèrent en féroces tranchées qu'elle endura avec courage. La violence qu'elle s'infligea pour ne pas gémir, ni même se plaindre, et le manque d'air dû auparavant disposé autour du lit, manquèrent de la faire expirer. Tandis que les médecins s'affolaient, mon père, d'une force herculéenne, parvint à ouvrir les croisées du manque calfeutré pour l'hiver. Elle jeta alors un cri, j'étais mise au monde. Lorsqu'elle reprit ses esprits, ma mère me pressa sur son cœur. Si je n'étais pas désirée, je ne lui en serais pas moins chère, car un fils eût davantage appartenu à l'État, tandis qu'une fille serait à elle. Les ordres n'arrivant pas, le gouverneur de la Bastille ne fit pas tirer le canon, comme le voulait la tradition, afin de saluer ma naissance. Fallait-il y voir un mauvais présage? Mes parents, unis à 14 et 15 ans, ne parvenaient pas à consommer leur mariage. Après 8 années, ma mère, qui espérait enfin être grosse, prenait pour des maux de cœur jusqu'aux idées qui lui passaient par la tête. Lorsqu'elle me sentit remuée pour la première fois, elle se précipita chez mon père pour lui annoncer, et d'un air faussement fâché, elle s'exclama « Je viens, sire, me plaindre d'un de vos sujets assez audacieux pour me donner des coups de pied dans le ventre. » Il en pleura de bonheur. Après cette délivrance, je reçus les prénoms de mes parrains et ma reine, Marie-Antoinette Charlotte, Marie-Antoinette comme ma grand-mère maternelle, l'impératrice d'Autriche, et Charlotte en hommage à mon oncle paternel, Charles III d'Espagne, ce dernier nom étant usité dans l'intimité. En dehors de ce cercle, on m'appela d'abord la petite madame, puis madame royale. Le soir même, un Te Deum me fut chanté dans toutes les paroisses parisiennes, du pain et du cervelas furent distribués aux nécessiteux, et on offrit un trousseau aux jeunes mariés. Enfin, une représentation gratuite fut donnée à la Comédie-Française, où les charbonniers et les poissardes eurent le droit d'occuper la loge du roi. Qui sait d'ailleurs que 3 fois par semaine, le peuple français pouvait se rendre à Versailles à condition d'être convenablement vêtu et se promener dans le parc et dans les salles. Ma mère se préoccupa de mes soins dès avant ma naissance. « On n'emmaillote pas les bébés, disait-elle. Ils doivent toujours être dans une bercelonnette ou sur les bras. » Elle aurait aimé me nourrir au sein, mais cela lui fut interdit. En ce temps-là, une femme de garde restait au chevet des enfants de France toutes les nuits, levée et habillée jusqu'à leurs 3 ans. Pas moins de 4 nourrices m'étaient dévolues. Chaque fois que j'étais malade, ma mère quittait tout pour moi. Ma première gouvernante fut Madame Guéméné, la sous-gouvernante Madame de Maco, dont la fidélité ne se démentit jamais. J'occupais alors, au bout de l'aile du midi, une chambre rouge et or, ouvrant sur une terrasse, devant l'orangerie. Gouvernantes et domestiques étaient à mon service, tous dotés de tâches précises, faire ma toilette, me vêtir, me dévêtir, me coiffer, me nourrir, ou encore ranger mon linge. Nous devons à Louis XIV l'invention de cette cour grouillante, de sa liturgie empesée et de sa lourde étiquette. Dieu que cet héritage a rendu notre famille impopulaire. Mais comment y échapper? Ma mère avait souhaité alléger sans succès la nuée de dignitaires qui m'entouraient, ces gens de service n'étant propres, selon elle, qu'à favoriser les sentiments d'orgueil. Hélas, elle fut contrainte de rendre les armes. In fine, tout lui fut également reproché. L'apparat comme la simplicité. En s'aliénant les nobles et antiques familles détentrices de charges, en affichant une façon de vivre presque bourgeoise, mes parents descendirent la première marche du piédestal où la naissance les avait placés. Mon père comprit trop tard combien la familiarité éloigne le respect. Nous sommes en train de lire Mousseline la sérieuse de Sylvie Hiver. En 1781 naquit mon frère Louis-Joseph François-Xavier, ce dauphin que la France attendait depuis un demi-siècle, puisque le fils de Louis XV était mort avec mon père en 1729. Enchanté d'avoir un héritier, mon père ne manquait jamais de placer mon fils dans les conversations. Suivirent en 1785 le second dauphin, Louis-Charles, que nous appelions Charles, duc de Normandie et futur Louis XVII. Puis la petite Sophie, l'année suivante, morte dans le tombeau de marbre rose qu'était le Grand Trianon avant son premier anniversaire. On a dit que j'avais montré à cette occasion une sensibilité peu ordinaire pour mon âge. Au fond, je n'avais jamais été insouciante. Ma mère, prostrée, ne cessait de se lamenter sur la perte de son pauvre petit ange. Elle exhorta Madame Vigée-Lebrun à effacer de son célèbre portrait de la famille le nourrisson qu'elle avait placé dans un berceau, puisque désormais celui-ci demeurait vide. La ravissante Madame de Polignac, favorite de ma mère en raison de son attachement à sa personne et non à son rang, avait été nommée gouvernante à la place de Madame de Guéméné. Cependant, Madame de Macot nous prodiguait toujours les soins quotidiens. Je quittais l'aile du midi pour ce qu'on appelait les petits appartements sous la galerie des glaces au début de l'année 1783, afin de me rapprocher de ma mère qui souhaitait surveiller mon éducation avec les yeux éclairés du cœur. La princesse aux cheveux blonds et bouclés que j'étais laissait souvent percer les indices d'une âme impétueuse qu'il fallait réduire coûte que coûte. Ma mère disait que je ressentais déjà le sang de Marie-Antoinette et de Marie-Thérèse et de Louis XIV coulé dans mes veines. Il n'était pas si aisé de me mettre au pas. Quand j'avais 7 ans, une baronne me complimenta ce que l'étiquette interdisait. Les traits contractés, j'aurais répondu après un silence farouche : « Je suis charmée que vous me trouviez ainsi, mais je suis étonnée de vous l'entendre dire. » La plus surprise fut cette pauvre baronne à qui ma gouvernante dit alors que je ne ferais jamais passer le bonheur d'être aimée après les exigences de l'étiquette, ce qui était une manière de me faire comprendre que mon intransigeance relevait de l'inconvenance. Après quoi je baisai la main de ma gouvernante, puis fis une profonde révérence avec toute la réserve nécessaire. Une autre fois, ma mère fit approcher une petite fille qu'elle trouvait très jolie. C'était la future Madame Récamier. Elle nous plaça dos à dos afin de comparer nos statures. J'étais la plus petite, bien que fort grande pour mon âge, et j'ai le souvenir d'en avoir éprouvé une humiliation excessive. Puisque j'avais encore besoin de leçons, ma mère m'engagea ensuite à dîner avec une petite paysanne qu'elle fit servir la première, ajoutant à mon intention que je devais lui faire les honneurs. Elle ne tolérait pas qu'on me dispensât cette molle et dangereuse indulgence qui corrompt les naturels les plus heureux et qui est l'écueil de la plupart des éducations royales. Sa tendresse éclairée savait faire preuve de fermeté. Fais-je tomber un mouchoir ? Elle interdisait qu'on le ramassât pour moi, désirant que je reçusse une leçon d'obéissance et de modestie. Je la trouvais sévère à mon endroit, jugeant mon père plus doux et affectueux. C'est à cette époque que je fis un songe prémonitoire. Une foule furieuse s'introduisait chez ma mère, la massacrait, puis jetait sa dépouille par la fenêtre. Ensuite, sur la terrasse où je me promenais, j'enjambais son cadavre ensanglanté, sans manifester aucun trouble. Un bal fut organisé le dimanche dans les jardins du Trianon, où n'importe quel enfant était admis. Je n'y étais jamais à l'aise, paralysée par une timidité sans doute héritée de mon père. Son plus jeune frère, mon oncle Artois, m'avait surnommée Mousseline la Sérieuse. Ma façon d'observer ma mère donnait, paraît-il, le sentiment que je la jugeais. Mais on m'appela aussi Mousseline la Triste. Voilà. Si vous avez envie de découvrir la vie de cette princesse dont l'univers va basculer en 1789, eh bien je vous invite à lire Mousseline la Sérieuse de Sylvie Hiver aux éditions Héloïse d'Ormesson.